avec Charlotte Bousquet au Salon du Livre de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va discuter pour deux maisons d'édition. Dans un premier temps pour Mnemos, notamment pour Citeriae, et puis ensuite pour Le Renard on the Rock chez Argemios. Donc, pour revenir sur Citeriae, ma première question, ça va être pourquoi est-ce que vous avez voulu revenir dans cet univers assez sombre que vous aviez déjà visité avec Arachnae?
Parce que, bah, tout simplement, c'est un univers que j'aime beaucoup, dans lequel je me sens à l'aise. C'est une renaissance imaginaire et décadente. Et l'idée, c'est de d'explorer à chaque fois une cité ou un quartier différent, et en même temps avec une inspiration réelle. C'est-à-dire que Arachnae s'inspirait un petit peu des Borgia, hein, des dynasties Borgia, et là, Citeriae, c'est un peu plus le Venise de la Renaissance.
Et vous vous sentez à l'aise avec des univers pareils?
Mais complètement. En plus, étant donné que je suis un petit peu perverse, plus c'est glauque et bizarre, mieux je me porte. Mais bon, ça va. Citeriae, c'est moins glauque qu'Arachnae quand même. C'est pas la même. On va dire que c'est pas la même facette de la folie qui est explorée.
Vu comme ça, d'accord. Du coup, vous êtes en train de construire tout un état, tout un empire autour de ces différentes cités, et on va pouvoir découvrir ça au fur et à mesure.
Et tout à fait. En fait, au départ, j'avais vaguement, arbitrairement, créé 7 îles sur cet archipel. Maintenant, elles sont plus de 10. Et en fait, dans le prochain, on devrait découvrir Messina, qui est complètement au sud, donc qui reste une principauté vaguement renaissante, mais qui est surtout inspirée de l'Afrique, qui est puis un petit peu de Berbérie. Et puis, de l'autre côté, donc Matricia, qui est beaucoup plus nordique. Voilà, qui est limite. Oui, moi je dirais qu'un mélange entre toujours cette Italie renaissante et puis un petit peu l'Allemagne.
Ces mélanges d'ambiance, on va dire un petit peu romantique quand même, puisqu'il y a beaucoup d'amour, de côté un peu ésotérique aussi, c'est un amalgame que vous faites vous naturellement, ou ça vous demande des recherches à chaque fois dans chaque zone, et puis vous voyez les points de connexion pour pouvoir créer votre propre univers?
Alors en fait, je pense qu'à la base, je suis aidée par le jeu de rôle, parce que je joue quand même depuis quasiment 20 ans, donc les amalgames d'univers et les trucs bizarres, ésotériques et tout ça, je connais plutôt bien. Au niveau recherche, pas tant que ça. Je veux dire que je suis assez passionnée par l'histoire, par la Renaissance, donc de toute façon, de mon côté, je fais énormément de recherches. Et puis j'ai une passade où je tirais des cartes, donc pareil, ça donne pas mal de matériel pour pouvoir écrire, et voilà quoi. Donc ça vient finalement de manière assez naturel dans un cerveau qui est peut-être pas tout à fait net.
Sur le choix des personnages, vous vous basez sur quoi? Vous avez un petit peu une fiche signalétique que vous préétablissez, justement, peut-être comme on peut faire sur un scénario de rôle quand on est maître du jeu, on décrit le personnage, on dit voilà, il fait ça, 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 et puis on voit après comment on l'utilise. Ou est-ce que vous les laissez des fois un petit peu vivre leur vie?
C'est un petit peu un mélange des deux. Par exemple, Théodora était beaucoup plus, était un personnage qui était beaucoup plus calculé et beaucoup plus posé, même s'il y a eu quelques dérapages et qu'elle a pris un petit peu son envol. Nola, c'est un personnage dont j'avais une vague idée au départ. Je savais que c'était quelqu'un qui était incapable de s'exprimer, qui pratiquait donc l'automutilation parce que c'était sa seule manière d'exprimer ce qu'elle ressentait, que ce soit la haine, de l'amour ou ce genre de choses. Et puis en fait, Nola, je l'ai vraiment vécu. J'ai vraiment laissé vivre comme ça. Donc elle est née de manière, je dirais, quelque part beaucoup plus naturelle que Théodora, qui était vraiment réfléchie comme quelqu'un qui est extrêmement fuyant, qui est, voilà, ça dépend complètement des... Généralement, j'ai au moins une idée à la base de ce que je veux, et puis soit ça reste sur des rails, soit je les laisse complètement partir.
Pourquoi avoir choisi les ambiances de Venise? C'est le côté les canaux, c'est l'architecture. Est-ce que c'est une ville que vous affectionnez, vous, déjà particulièrement?
Alors, oui. En fait, j'adore Venise. J'ai écrit un livre, un roman polar historique qui se passe aussi à Venise, à la Renaissance. Donc, je pense que c'est une ville qui est tellement, qui est tellement imaginaire, que même quand on est à Venise, c'est jamais la même ville. Ensuite, c'est une ville que l'on crée en visitant. Et je crois que c'est ça qui la rend magique. Et j'ai vraiment voulu rendre un petit peu cette ambiance avec Citeriae. Et je dirais que de manière plus large, avec l'archipel, c'est aussi une renaissance imaginaire que j'essaie de recréer à partir de villes réelles. Donc c'est vraiment toute cette espèce de correspondance hein, qui m'intéresse. Alors ça, c'était un petit hommage à Sir Cédric, mais alors de très loin.
Les prochains ouvrages, vous avez déjà des dates de parution ou...
Oui. Sur chez Mnemos, vous voulez dire? Alors le prochain, donc Matricia, est prévu à l'automne chez Mnemos. Et entre deux, j'aurai une nouvelle dans l'anthologie Victimes et Bourreaux des Imaginales, donc toujours dans le même univers.
Vous avez d'autres textes qui sont à rattacher justement avec le monde de Arachnae, Cité Eriae?
C'est le but en fait, énormément, pas mal de nouvelles. Donc outre celles qui paraissent dans les anthos des Imaginales, j'en ai une qui paraît dans un magazine américain qui s'appelle Cite, mais c'est donc un magazine francophone. Et l'idée, c'est vraiment de construire plein de petites choses, de laisser, par exemple, j'en ai une aussi en téléchargement gratuit sur mon blog, que Elvire a illustré. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est de faire vivre l'univers en dehors aussi des romans.
Pour passer à Le Ronin on the Rocks, là on est sur un univers qui n'a rien à voir du tout, même si le sujet est quand même relativement grave. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur les féminicides au Mexique ?
La première chose, c'est quand j'ai vu Border Town, le film, tout simplement, où ça m'a, enfin voilà, c'est quelque chose qui nous a, qui m'a énormément marqué. Du coup, j'ai commencé à me renseigner dessus, et puis en même temps, il se trouve que j'adore les rancheras, j'adore Chavela Vargas, Frida Kahlo. Donc en fait, ça fait tout un mélange qui a fait que je me suis vraiment plongée dans le Mexique, intéressée au Mexique. Et puis à la base, The Ronin on the Rocks était censé paraître dans la collection Club Van Helsing. Donc voilà, qui entre deux s'est arrêté. Donc c'est vrai que j'ai du coup changé des choses, mais l'idée c'est un monstre, un chasseur à la base. Donc je suis vraiment restée là-dessus, mais tout en traitant un sujet qui me tient à cœur, qui est effectivement les féminicides et la violence envers les femmes.
À la fin de l'ouvrage, il y a tous les sites que vous êtes allé consulter, donc Amnesty International et puis les sites d'associations de femmes là-bas. C'est encore pire que ce qu'on peut lire, je suppose, en vrai.
C'est encore pire, d'autant plus que c'est plus à la mode. C'est-à-dire qu'en 2006, il y a une campagne Amnesty International contre les féminicides. En 2009, je sais qu'il y a eu aussi des choses qui ont été faites plutôt au niveau du Canada contre les féminicides, enfin pour lutter contre les féminicides au Mexique. Et en fait, chaque année, les autorités mexicaines annoncent que, en fait, c'est fini, qu'ils ont arrêté des gens, c'est complètement faux. Donc ça empire. En plus, maintenant, il y a la guerre des cartels qui fait que justement, c'est, quand je dis que c'est plus à la mode, on n'en parle plus, ça continue. C'est de pire en pire, mais c'est complètement absorbé au niveau des informations par la guerre des cartels.
Vous le présentez comment, ce roman-là ? Parce qu'on part de quelque chose qui est extrêmement dur, et finalement, en le lisant, on prend plaisir. Enfin, bon, il y a tout ce background qui est délicat avec tous les meurtres, mais sinon, au niveau de la lecture, on a quand même un niveau de lecture, on va dire, léger. Le propos est léger.
Bah, en fait, pour moi, c'est de la vitrite engagée. Voilà, donc voilà, c'est écrit à la première personne, c'est que c'est une héroïne. La couverture, c'est vraiment un clin d'œil à Lara Croft, et c'est complètement voulu. C'est une Lara Croft mexicaine, sauf qu'elle parle, elle est capable de parler à des fantômes, elle est capable de les exorciser, et c'est une tueuse à gages. Donc elle a quelque part pas mal de caractéristiques de l'héroïne de Victide. Elle s'exprime à la première personne, et en même temps, ça n'empêche pas aussi d'avoir un propos qui est vraiment, c'est vrai que le fond est grave. C'est aussi l'enjeu du livre.
Cette héroïne qu'on attend, femme forte, extrêmement sûre d'elle, avec ses flingues, enfin tueuse à gages, donc déjà c'est pas n'importe quoi, et finalement qui est fleur bleue, mais comme c'est pas permis, ce décalage, comment il s'est fait ?
Alors en fait, au départ, c'était, je crois que c'était plus une forme de plaisanterie, parce que je cherchais un personnage masculin mexicain, et je suis tombée sur Danny Trejo, et Danny Trejo sexy à la base, c'est quand même assez conceptuel, donc je me suis dit pourquoi pas avoir une héroïne qui tombe systématiquement amoureuse des mauvaises personnes, et donc là en l'occurrence Danny Trejo, qui est quand même en l'occurrence la quarantaine, cinquantaine bien sonnée, qui est pas super beau et qui a une tête de tueur. Donc j'essaie de faire en sorte de trouver qu'est-ce qui fait qu'une fille comme Eva peut tomber amoureuse d'un type comme ça. Donc c'est une fan de telenovelas, et elle est fleur bleue, et voilà quoi. Et quand on a été fan de Marimar quand on était jeune, ça laisse des traces.
De l'autre côté, justement, l'autre tueur qui va finalement l'accompagner dans sa mission, lui porter secours, il s'aime, on sait pas trop, jusqu'où il l'utilise, jusqu'où finalement il se laisse prendre au jeu. Lui, comment est-ce qu'il a été construit ?
Comme dit Robert Rodriguez. Non mais c'était vraiment ça, c'était vraiment aussi la part vraiment fun de faire plein de clins d'œil dans ce bouquin au personnage de Robert Rodriguez. Donc c'était un Danny Trejo, bon ben voilà, qui a plus qu'un rôle secondaire à part dans Machete bien sûr. Et puis quelqu'un qui soit vraiment une gueule, qui soit vraiment quelqu'un qui est pas beaucoup scrupule, mais quand même de temps en temps un bon fond. L'histoire du petit frère, c'est clairement aussi une allusion à El Mariachi. Donc c'est vraiment, voilà, je me suis vraiment fait plaisir en créant ce personnage.
Et le rapport avec justement la Llorona, qui est l'équivalent d'une dame blanche, alors vous utilisez la Llorona, mais il y a aussi plein d'autres, je peux pas dire vraiment divinités, mais qui mexicaines, qui apparaissent aussi. Ça c'est fait comment ? Pourquoi s'est arrêté justement sur la Llorona ?
Alors la Llorona, au départ c'est à cause de la chanson La Llorona, hein, c'est que j'adore, qui me fait pleurer à chaque fois, mais ensuite parce que La Llorona c'est une légende urbaine mexicaine qui parle des femmes, hein, qui est l'histoire de... Alors après selon les versions, ça va être la fiancée aztèque de Cortés, qui est abandonnée par Cortés et Guillaume qui va noyer ses enfants, ça va être une déesse, ça va être... Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est quand on regarde, on commence à fouiller l'histoire de la Llorona, on se rend compte que c'est une légende qui s'est complètement répandue, qui s'est complètement adaptée aux époques et qu'on retrouve actuellement dans tous les pays hispaniques. La Llorona, on peut en trouver en Espagne, on peut en trouver au Mexique, et ça va être en gros une femme qui pète un plomb, qui va noyer ses enfants, c'est une Llorona. Donc ça me paraissait particulièrement approprié quand même.
Est-ce qu'on peut éventuellement imaginer une suite ? Parce que cette femme-là, il pourrait lui en arriver plein, et même si un jour elle se fait tuer, il aurait pu avant lui arriver plein de choses. Donc,
Alors en fait c'est prévu, mais je ne sais pas quand, ni sous quelle forme. Avec Elvire de Coq, on a un projet de bande dessinée, mais on est un petit peu débordé, il faut que je l'écrive, il faut qu'elle le dessine entre dans un projet d'album jeunesse, donc ça n'a, voilà. Et puis après, bon, il faut vraiment le temps de l'écrire, et puis un éditeur aussi, donc voilà. J'ai, je dirais, trois romans possibles avec Eva, parce que c'est un personnage que j'aime bien, et puis parce qu'il y a pas mal de choses à dire à propos du Mexique et de la frontière.
Pour terminer nos interviews cette année, on a une question qui est celle-ci. Si on vous donnait la possibilité de travailler avec un artiste ayant existé dans quelque domaine artistique que ce soit, qui ce serait et quel serait le projet ?
Alors je dirais, là comme ça brûle pour point, ce serait Frangelico, ce serait un projet sur les anges. Tout ça, pas pour le côté mystique, parce que je suis assez athée, hein, mais pour le côté esthétique. Ce serait peut-être de faire un recueil de poèmes illustrés par Frangelico sur les anges. Les ailes et les couleurs et ce genre de choses.
Vos prochaines séances de dédicaces
Demain, de 17h à 20h. Mais sinon, je suis à Trolls et Légendes, et puis sinon, je suis aux Imaginales.
Et particulièrement mise à l'honneur aux Imaginales cette année, je crois.
Mais oui, je suis coup de cœur des Imaginales. Alors, je suis toute contente.
Un mot sur l'ambiance du Salon du Livre ?
C'est samedi, il y a du monde, et je trouve particulièrement héroïque, hein, d'interviewer des gens dans les conditions là, qu'on a. Hein, mais non, mais... C'est voilà, le stand de Nemo, c'est toujours agréable. Là, hier c'était plus sympa, il y avait Abd al-Malik qui était là, donc c'était là c'est plus bizarre, hein, mais bon, c'est pas grave.
Merci beaucoup.